Théologie biblique, 6 juin 84, Père Philippe, Saint-Joseph.
Nous avons vu la dernière fois, au point de vue de l'histoire de Joseph, la manière dont Joseph, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, veut sonder le cœur de ses frères et voir si ses frères sont capables de faire à l'égard du Benjamin ce qu'ils ont fait à l'égard de lui-même. Et il y a toute cette ruse de Joseph pour sonder le cœur de ses frères. C'est un passage extrêmement beau au point de vue économie divine, au point de vue du mystère de la réconciliation. Je crois que c'est un des aspects les plus importants pour nous, au point de vue de la réconciliation. Vous voyez, il y a eu le passage d'Ésaü et de Jacob. Comment renouer des liens de charité fraternelle quand ils ont été brisés? Et puis ici, comment renouer des liens de charité fraternelle quand ils ont été brisés par la jalousie? Des deux côtés, c'est la jalousie. Et ces liens de charité fraternelle ont été fondamentalement brisés. Et Dieu, dans sa sagesse, veut les renouer, les refaire. Et nous voyons comment, d'un côté, c'est le grand mystère de la prière. Jacob a prié toute la nuit. Et Jacob, en priant toute la nuit, Jacob a de fait obtenu de Dieu que Ésaü soit tout proche de lui. Il y a quelque chose qui ne va pas ? Il faut le dire, vous n'avez qu'à le dire, si dans le fond vous n'entendez pas, vous n'avez qu'à lever la main. Vous n'entendez pas dans le fond, parce que autrement, il n'y a pas de contact alors. C'est revenu. Parce qu'autrement on peut... Bon. Comprenons alors comment, d'une part, Dieu demande à Jacob la prière pour que, de fait, il puisse retrouver Ésaü, calmer la colère d'Ésaü. Et d'autre part, quand il s'agit de Joseph, Joseph va corriger, c'est une correction qu'il fait, c'est très différent, c'est une correction qu'il va faire par rapport à ses frères pour essayer de comprendre s'ils seront capables de ne pas abandonner le Benjamin, de ne pas le laisser, si vous voulez, être prisonnier. puisqu'il s'agit de fait de le prisonnier, de le rendre prisonnier, et de voir comment il sonde le cœur de ses frères. Donc là, nous avons deux procédés tout à fait différents au point de vue de l'économie divine. Une économie divine qui est par le point de vue de la prière, et l'autre économie divine qui est par le point de vue de la correction fraternelle. Et des deux côtés, c'est pour montrer la puissance des liens de charité fraternelle, pour montrer la force des liens de la charité fraternelle. Je crois que c'est comme une première annonce, voyez, de ce que nous verrons alors dans la Nouvelle Alliance, de ce précepte, comme dit saint Jean, qui n'est pas nouveau, mais qui est le précepte le plus ancien. Et saint Jean, quand il dit que c'est le précepte le plus ancien, saint Jean veut nous faire comprendre que, de fait, ce précepte de la charité fraternelle est très précieux aux yeux de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de secondaire. Et qu'il faut tout faire pour le maintenir. Et c'est pour ça que ce passage est si important. Il faudrait l'étudier de près. Nous l'avons lu la dernière fois. Et ça demande d'être lu d'une seule traite pour qu'on voit la manière dont Joseph, de fait, dévoile à ses frères ce qu'il est. Alors on découvre l'émotion de Joseph. Joseph a tout pardonné, c'est bien évident. Mais il ne peut pas pardonner si ses frères n'ont pas fait un repentir par rapport à l'attitude qu'ils ont. Alors je reprends chapitre 43. Non, chapitre 43, nous l'avons vu, n'est-ce pas ? Alors 44, Joseph donna cet ordre au chef de la maison, remplis les sacs à blé de ses hommes, d'autant de vivres qu'ils en pourront porter, et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac à blé. Donc c'est là la ruse, hein. Nous l'avions déjà vu, mais je le reprends pour que nous voyons mieux cette manière dont Dieu, dans son économie divine, veut corriger le cœur des frères de Joseph. Et ma coupe, la coupe d'argent, tu la mettras à l'entrée du sac à blé du plus jeune avec l'argent de son grain. Le chef de sa maison agit selon la parole de Joseph, selon la parole que Joseph avait dite. Dès que brilla le matin, on renvoya les hommes avec leurs ânes. Ils sortaient de la ville et ils n'étaient pas loin. Lorsque Joseph dit au chef de la maison, debout, cours après ces hommes, et quand tu les auras rejoints, tu leur diras, pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? Et pourquoi m'avez-vous dérobé la coupe d'argent? N'est-ce pas celle dans laquelle boit mon maître et avec laquelle il pratique la divination? Vous avez mal agi en faisant cela. Le chef de la maison les rejoignit et leur dit ces paroles. Ils lui dirent, pourquoi mon Seigneur part-il en ces termes, loin de tes serviteurs de faire pareille chose? Vois, l'argent que nous avons trouvé à l'entrée de nos sacs à blé, nous te l'avons rapporté du pays de Canaan. Et comment donc aurions-nous volé dans la maison de ton maître de l'argent ou de l'or? Celui de tes serviteurs chez qui on trouvera la coupe, qu'il meure. Et nous-mêmes, nous deviendrons les esclaves de mon Seigneur. Le chef de la maison dit, que dès maintenant il en soit selon vos paroles. Celui chez qui on trouvera la coupe sera mon esclave, et vous, vous serez quitte. Et ils se hâtèrent chacun de descendre à terre de son sac à blé. Et chacun ouvrit le sien. Il fouilla en commençant par l'aîné, et en achevant par le plus jeune. Et la coupe fut trouvée dans le sac à blé de Benjamin. Alors ils déchirèrent leurs vêtements, et chacun ayant chargé son âne, ils retournèrent à la ville. Judas et ses frères, donc soulignez le rôle particulier de Judas, Judas et ses frères entrèrent dans la maison de Joseph, qui s'y trouvaient encore, et ils tombèrent à terre devant lui. Joseph leur dit, « Quelle est cette action que vous avez commise? Ne saviez-vous pas qu'un homme comme moi est capable de deviner ?» Judas dit, « Que dirons-nous à notre à mon Seigneur? Comment parler et comment nous justifier? C'est Dieu qui a trouvé la faute de tes serviteurs. Nous voici les esclaves de mon Seigneur, aussi bien nous que celui aux mains duquel on a trouvé la coupe. » Mais Joseph dit, « Loin de moi d'agir ainsi. C'est l'homme aux mains duquel on a trouvé la coupe qui sera mon esclave. Pour vous, montez sain et sauf auprès de votre père. » Alors Judas s'avança vers lui et dit, « De grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse dire une parole aux oreilles de mon Seigneur, sans que ta colère s'enflamme contre ton serviteur, car tu es l'égal de Pharaon. Mon Seigneur a questionné ses serviteurs en disant, « Avez-vous un père ou un frère ?» Nous avons dit à mon Seigneur, « Nous avons un vieux père et un jeune frère, enfant de sa vieillesse. Le frère de celui-ci est mort et il reste seul de sa mère et son père l'aime. Tu as dit alors à tes serviteurs, « Faites-le descendre vers moi. » Que je pose mes yeux sur lui. Nous avons dit à mon Seigneur, le garçon ne peut pas quitter son père. S'il quitte son père, celui-là mourra. Vous voyez comme on insiste d'une façon très très forte sur ce lien unique entre le cœur de Jacob et le cœur du Benjamin. Je crois que là, il y a quand même quelque chose de très important à souligner au point de vue de l'économie divine. Parce que c'est ça que nous essayons de découvrir. Une théologie de l'économie divine, à travers l'histoire sainte, à travers l'histoire des patriarches, et puis de Joseph et du Benjamin. Et c'est dit avec beaucoup de netteté, à la fois le lien, et puis il est dit d'une façon négative pour qu'on comprenne mieux. Si votre plus jeune frère ne descend pas avec vous, oui alors, si votre plus jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne paraîtrez plus devant moi. Et lors donc que nous sommes montés auprès de ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Et quand notre père a dit, retournez, nous acheter quelques vivres. Nous avons dit, nous ne pouvons descendre si notre plus jeune frère est avec nous. Nous descendrons, car nous ne pouvons paraître devant cet homme sans que notre plus jeune frère soit avec nous. Alors ton serviteur, mon père, nous a dit, vous savez que ma femme m'a enfanté deux fils. Alors on reprend tout, vous voyez, pour bien faire comprendre la raison. Pourquoi le cœur de Jacob est-il tellement lié au Benjamin? C'est que Joseph et le Benjamin sont les deux fils de Rachel. Et que Rachel est celle que Jacob a aimée. Alors l'amour de Jacob pour Rachel se porte sur les deux. Alors ton serviteur, mon père, nous a dit, « Vous savez que ma femme a enfanté deux fils. L'un est parti d'auprès de moi. Et j'ai dit, certainement il a été mis en pièces. Et je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. Si vous prenez encore celui-ci d'auprès de moi, et qu'il lui arrive malheur, vous ferez descendre dans l'infortune mes cheveux blancs au Shéol. » L'âme de Jacob est collé à celle du Benjamin. Et donc, s'il arrive un malheur au Benjamin, nécessairement, Jacob lui-même ne pourra pas survivre. Si donc j'arrive auprès de ton serviteur, mon père, sans que soit avec nous le garçon,
à l'âme duquel son âme est liée. Alors, dès qu'il verra que le garçon n'est pas avec nous, il mourra. Et tes serviteurs auront fait descendre dans l'affliction les cheveux blancs de ton serviteur, notre père, au Sheol. Or, ton serviteur a répondu pour le garçon auprès de mon père en disant, « Si je ne le fais pas revenir vers toi, je serai coupable envers mon père tous les jours. Maintenant donc, que ton serviteur reste à la place du garçon comme esclave de mon seigneur, et que le garçon monte avec ses frères, comment en effet monterai-je auprès de mon père sans que le garçon soit avec moi ? Ah, que je ne vois pas le malheur qui atteindrait mon père. » Donc parmi les 10, il y a Judas. Il ne faut pas l'oublier. Et Judas est celui qui répare tout. Et celui qui montre que ses frères ne sont plus les mêmes. Parce qu'il y en a un qui n'est pas le même. Et qui offre sa vie pour sauver le Benjamin à cause de l'amour qu'il a pour son père. Et c'est cela que Joseph attendait. Savoir si parmi ses frères, il y en aurait un qui serait capable de se sacrifier pour que le Benjamin soit libéré. C'est en ce sens-là qu'il sonde les cœurs et les reins. Vous voyez, c'est vraiment le rôle, je crois, de Joseph, ce rôle très particulier de médiateur. C'est vraiment le médiateur, Joseph. C'est le grand mystère de Jésus médiateur. C'est le grand mystère de Jésus grand prêtre. On va essayer de comprendre, parce qu'il y a derrière tout cela, forcément, comme toujours, toute l'ancienne alliance, il y a quelque chose qui est très important pour nous, je crois, à saisir. C'est très beau, c'est plein d'un sentiment d'une noblesse extraordinaire, et c'est beaucoup plus, vous voyez, explicite que ce que nous voyons dans Saint Jean, dans l'évangile de Saint Jean, c'est toujours l'Ancien Testament, est beaucoup plus explicite. La nouvelle alliance est beaucoup plus intérieure, tout est intériorisé. Tout est vu dans le silence, dans la nouvelle alliance. Tandis que dans l'ancienne alliance, tout est dit, tout est exprimé avec force et avec une tension. Parce que ce sont des pages qui sont d'une très grande beauté. Et je crois qu'il faut goûter cette beauté-là, parce qu'il faut essayer de la comprendre dans l'économie divine. Qu'est-ce que ça représente, cela ? Qu'est-ce que représentent ces 10 frères qui ont été complices, sauf Ruben ? Et Judas était complice du crime à l'égard de leur frère. Et comment, plus tard, il y a quelque chose de changé dans le cœur de ses frères, puisque Judas est capable de s'offrir pour sauver le Benjamin. Alors Joseph ne put se contenir devant tous ceux qui se tenaient debout près de lui. Et il s'écria, « Faites sortir tout le monde d'auprès de moi. » Et il ne restait personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. La révélation de Joseph à ses frères. Les frères de Joseph avaient une première connaissance de Joseph qui avait suscité en eux une jalousie. Et une terrible jalousie, capable de vendre Joseph aux Égyptiens et capable de le tuer. Parce que dans leurs intentions, ils voulaient tuer Joseph. Alors, il faut le mettre dans le puits, puis le vendre aux Égyptiens. Le moindre mal. On voit très bien. Mais dans leur intention, c'était ça. Alors ici, c'est la révélation de Joseph. Faites sortir tout le monde d'auprès de moi. Et il ne restait personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. C'est très très beau ça. Joseph joue un rôle extraordinaire, hein, puisqu'il est l'égal du Pharaon. Il est roi des rois. Il est l'égal du pharaon. Il n'y a que le trône que le pharaon a gardé. Hein. Tout le reste, c'est Joseph qui l'a. Donc il a l'autorité du pharaon. Alors on comprend très bien qu'il ne peut pas montrer l'émotion de son cœur devant tout le monde. Quand on a l'autorité, on doit respecter l'autorité. Et l'autorité ne supporte pas l'émotion. Il faut bien voir, c'est le sentiment et l'émotion du cœur. L'autorité, c'est l'intelligence, c'est la prudence. Alors il fait sortir tous. Et devant ses frères, il peut se dévoiler. Et il peut dévoiler alors à ce moment-là les sentiments les plus profonds de son cœur. Vous voyez, comme c'est beau, comme analyse de ce que représente la famille et l'autorité. Une autorité politique. La distinction entre les deux. Il éleva la voix en pleurant, et tous les Égyptiens entendirent, et la maison de Pharaon entendit. Ils ne sont pas là, mais entendent. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. » Oui, la grande révélation. « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne pouvaient lui répondre, car ils étaient bouleversés devant lui. Joseph dit à ses frères, « Avancez donc près de moi. » Ils s'avancèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, moi qui vous ai vendu pour l'Égypte. Mais maintenant, ne vous affligez pas, ne vous tourmentez pas de ce que vous m'avez vendu ici, car c'est pour procurer la vie que Dieu m'a envoyé en avant de vous. » Merveilleux de voir comment Dieu se sert hein, de la faute pour le salut de ceux-mêmes qui ont vendu Joseph. Oui, c'est le grand mystère de la réconciliation. Ça, c'est une des choses les plus extraordinaires si on veut vraiment comprendre ce grand mystère qui est présenté ici. Hein. Mais maintenant, ne vous affligez pas, ne vous tourmentez pas de ce que vous m'avez vendu ici. C'est pour procurer la vie que Dieu m'a envoyée en avant de vous. Car voilà 2 ans que la famine est à l'intérieur du pays. Et il y en aura encore 5 années sans labour ni moisson. Dieu m'a envoyée en avant de vous pour vous assurer un reste dans le pays. Et vous garder la vie pour une grande délivrance. Ainsi donc, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. Et il m'a envoyé comme père pour Pharaon, comme maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Vous voyez, 3 fonctions. Hein. C'est assez beau, comme c'est trinitaire. Hein. Vous voyez bien. C'est en filigrane, c'est le Christ. Hein. C'est évident, c'est pour nous c'est très net, c'est visible. Ainsi donc, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. Il m'a établi comme père pour Pharaon, comme maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Donc vous avez la paternité, le maître de toute la maison et gouverneur de tout le pays. 3 aspects différents. Je crois que la paternité, c'est le côté affectif. La maître, c'est le point de vue de l'enseignement. Il est maître, rabbi, il est maître. Et puis, gouverneur, c'est l'aspect de reconduire à la source. Vous savez, les 3. Pour Jésus, c'est net, hein. Père, Fils, Esprit Saint, vous voyez les 3 liés au mystère de Jésus comme médiateur. Hâtez-vous de monter auprès de mon Père. Vous lui direz, ainsi parle ton fils Joseph. Dieu m'a établi comme maître de toute l'Égypte. Descends auprès de moi, ne traîne pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen et tu seras près de moi. Toi, tes fils, les fils de tes fils, ton petit et ton gros bétail, et tout ce qui est à toi. Ça, c'est toujours hein, la grande litanie. C'est très joli du reste. Là, je pourvoirai à ta subsistance, car il y aura encore 5 années de famine, pour que tu ne tombes pas dans l'indigence, toi, ta famille et tout ce qui est à toi. Et voilà que vos yeux le voient, ainsi que les yeux de mon frère Benjamin. C'est bien ma bouche qui vous parle. Informez mon père de toute ma gloire en Égypte, de tout ce que vous avez vu. Hâtez-vous de faire descendre mon père ici. La hâte de retrouver le lien avec le père. Alors, c'est évident, il faut bien comprendre, c'est le père qui doit venir auprès de lui, puisqu'il est, il a cette charge à travers toute l'Égypte. Alors, il se jeta au cou de Benjamin. Il a d'abord parlé, hein, le discours, c'est bien, ça, c'est, il fallait quand même révéler ce qu'il était. Alors, il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Benjamin aussi pleura à son cou. Puis il embrassa tendrement tous ses frères et pleura tout contre eux. Après quoi, ses frères parlèrent avec lui. Oui, réconciliation dans des larmes de joie. Réconciliation qui montre l'unité qui est refaite alors qu'elle avait été brisée. Le bruit se répandit dans la maison du Pharaon. Les frères de Joseph, disait-on, sont arrivés. La chose plut à Pharaon et à ses serviteurs. Et Pharaon dit à Joseph, « Dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez, allez au pays de Canaan, prenez votre père et vos familles, venez auprès de moi, je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur dans le pays d'Égypte. » Et vous vous nourrirez de la graisse du pays. Et toi, donne-leur cet ordre. Faites ceci, procurez-vous dans le pays d'Égypte des chariots pour vos enfants et vos femmes. Emmenez votre père et venez. N'ayez pas un regard de regret pour les objets que vous devrez laisser, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Et la reconnaissance du Pharaon. C'est la reconnaissance merveilleuse du Pharaon. C'est vraiment le roi des rois, c'est une espèce de royauté exprimée d'une façon très, très étonnante. Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chariots sur l'or de Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. À chacun d'eux, il donna des vêtements de rechange. Mais à Benjamin, il donna 300 sicles d'argent et 5 vêtements de rechange. Il faut bien le montrer, exactement comme pour le repas, n'est-ce pas ? On lui a donné le plus possible comme signe d'affection. Et à son père, il envoya de même 10 ânes, chargés de ce qu'il y a de meilleur en Égypte, et 10 ânesses chargées de froment, de pain et de vivres pour le voyage de son père. Je ne sais pas s'il y a une différence entre âne et ânesse au point de vue des chargements. C'est assez curieux, tu vois. On voit très bien là. Puis il congédia ses frères qui partirent et il leur dit, ne vous agitez pas en chemin. Ils montèrent d'Égypte et arrivèrent au pays de Canaan auprès de Jacob, leur père. Ils lui annoncèrent la nouvelle. Joseph vit encore. Et c'est lui qui est gouverneur de tout le pays d'Égypte. Mais son cœur resta inerte, car il ne les croyait pas. Quand ils leur eurent dit toutes les paroles que Joseph leur avait dites, quand il vit les chariots que Joseph avait envoyés pour l'emmener, alors reprit vie l'esprit de Jacob, leur père. Cela suffit, dit Israël. Joseph, mon fils, vit encore. Je veux aller le voir avant de mourir. Alors là, vous voyez, je crois qu'on pourrait, il faudrait faire cette analyse, parce que c'est quand même une magnifique, magnifique théologie de la réconciliation. Je crois que c'est la plus belle théologie de la réconciliation que vous avez. Et il faudrait étudier ça de très près pour essayer de comprendre ce que c'est que la théologie de la réconciliation. C'est très actuel, vous voyez. Parce qu'on est en présence d'une division fraternelle avec un crime. Avec un crime, vous voyez, objectivement parlant. Ils étaient tellement dans un état d'opposition que... Mais il y avait ça. Il y avait une brisure. Et cette jalousie des 10 par rapport à Joseph avait sa répercussion sur le cœur du Père. Et le cœur du Père avait cessé de battre. Hein? C'est pour ça qu'on reprit. Et alors... C'est pour ça qu'on reprit. Et alors reprit vie l'esprit de Jacob. Ça veut dire qu'il n'avait plus. L'esprit de Jacob était mort. Quand un fils meurt, le père meurt. Il y a une relation. Alors, il vivait encore pour le Benjamin. Et si le Benjamin disparaissait, tout disparaissait. Donc, cette jalousie fraternelle avait une répercussion sur le Père. Et il y avait un silence du Père à l'égard des 10. Non pas qu'il les croyait coupables, mais de fait. Et toute l'affection du Père s'était reportée sur le Benjamin. C'est extraordinaire, ça. Vous voyez, théologie des liens de la paternité à l'égard des fils, théologie des frères entre eux. Et pour bien comprendre le prix de la charité fraternelle, parce que c'est ça qui est en cause, la jalousie brise les liens de charité fraternelle. Et ça touche le cœur du Père. Ça ne peut pas être autrement. Et le cœur du Père est brisé par la jalousie des enfants. Il y a une brisure. Et alors, pour bien montrer le prix de la charité fraternelle et combien c'est difficile le dépassement de la jalousie, on voit comment Joseph, qui a reçu de Dieu le don du discernement, qui a reçu de Dieu le don de divination, qui a reçu de Dieu le don de pouvoir sonder les cœurs, les reins et les cœurs, on voit la manière dont Joseph va procéder. Il a dû demander conseil à Dieu. Hein. Sous le don de conseil, Joseph a compris ce qu'il devait faire. Et Dieu s'est servi de cette ruse pour dévoiler le cœur de Judas. Et dévoiler que dans le cœur de Judas, il y avait une totale réconciliation, un nouvel amour. Un amour entre Judas et le Benjamin. Un amour entre Judas et son père. Il avait trop bien connu la blessure du père, du cœur du Père, pour augmenter sa souffrance. Il avait compris que si le Benjamin ne revenait pas, le Père ne pourrait plus vivre comme Père. Il irait au Sheol. Alors vous voyez, je crois qu'on pourrait faire cette théologie de la réconciliation à l'égard de ce que représente le grand mystère de l'œcuménisme. au point de vue théologique, parce qu'au fond, on fait de l'œcuménisme sans faire de la théologie de l'œcuménisme, hein, hélas. On fait de l'œcuménisme la semaine, quoi. C'est-à-dire qu'on essaie de voir des rapprochements. C'est très bien, c'est très très beau, hein, c'est pas du tout pour critiquer, mais je crois qu'il y a une théologie de l'œcuménisme, il y a une théologie de l'unité. Il y a des lieux très importants dans l'Écriture où on peut toucher ce que c'est que la théologie de l'œcuménisme. La rencontre de Jésus et de la Samaritaine, c'est sûrement un des grands lieux pour saisir ce que doit être l'unité. Étant donné que la Samaritaine, c'est quand même, hein, la sœur séparée. Et en plus de ça, la pécheresse, parce que sœur séparée. Parce que la sœur séparée, elle a toujours bon dos. Hein. C'est la pécheresse, ça ne peut pas être autrement. Elle n'est plus tout à fait dans l'axe qu'il faut. Donc on la charge de toutes les fautes possibles. Et c'est vrai, c'est vrai. Elle a eu 5 maris quand même. Hein. Mais Jésus la regarde avec amour. Et on voit comment Jésus va lui faire comprendre le mystère de l'unité. Cette division qui existe au cœur même d'Israël, entre Israël et les Samaritains, Jésus vient rétablir l'unité. Et puis, il y a ce passage qui est plus obscur, beaucoup plus caché, mais que je crois qui va très loin. Puisque c'est dans la Genèse, donc c'est tout à fait le début, c'est l'économie divine à l'égard du grand mystère de la réconciliation. Alors, vous voyez, comment on pourrait essayer, au point de vue théologique, de comprendre que toute lutte fraternelle brise le cœur du Père. Et c'est bien ce que Jésus nous fait comprendre dans sa prière sacerdotale, qu'il soit un comme nous. Et donc, Jésus insiste tellement parce que lui est le seul qui connaît la brisure du cœur du Père. Alors, il ne peut pas accepter ça. Il est venu pour réconcilier. Il est venu pour rétablir les liens, tout en étant lui-même un signe en but à la contradiction. Alors, il faudrait essayer de comprendre comment toute lutte fraternelle, toute division des frères est quelque chose d'intolérable pour le cœur du Père. Quelle est la grande lutte au point de vue œcuménisme ? Quelle est la lutte la plus profonde au point de vue œcuménique ? Il y a des divisions à l'intérieur des chrétiens, c'est sûr. Mais il y a une séparation plus profonde que saint Jean souligne, c'est la séparation entre le peuple d'Israël et l'Église. La séparation entre le peuple d'Israël et le mystère de Jésus et ce qui provient de Jésus, le mystère de l'Église. Je crois que tout œcuménisme véritable doit aller jusque-là. Autrement, il ne va pas jusqu'au bout. L'œcuménisme véritable, c'est là. Je vous l'ai déjà dit, j'avais eu cette impression tellement forte quand je m'occupais à Paris d'un certain groupe œcuménique de catholiques et de réformés, dans lesquels il y avait parmi les réformés des intelligences très typiques et très très fortes, et en même temps des cœurs profonds, puisqu'on voulait, en faisant ces réunions, prier ensemble, non pas discuter, mais prier ensemble, sachant que c'est par la prière que l'unité peut se faire, des adorateurs en esprit et en vérité. C'est pas par la discussion, hein. La discussion, vous savez, ça n'ira pas très loin. Quand vous discutez avec des pasteurs et que vous voulez comprendre un tout petit peu ce qu'ils disent, ils se réfèrent, eux, immédiatement à ce qu'a dit Calvin ou Luther, et les catholiques se réfèrent au Concile de Trente. Hein, vous comprenez que l'unité, elle peut se faire comme ça. Hein, c'est normal que les catholiques se réfèrent au Concile de Trente, mais quand ils sont en face des réformés, ils pourraient peut-être mieux d'essayer de les rejoindre autrement. Parce qu'autrement, ça ne fait qu'augmenter la tension. C'est en priant ensemble, en adorant en esprit et en vérité. C'est par là que l'unité peut se faire. Jésus nous le dit lui-même. C'est Jésus qui nous le dit, ça, c'est pas un théologien. C'est Jésus qui nous indique comment on peut rejoindre la Samaritaine. Et comment la Samaritaine peut rejoindre ceux qui adorent à Jérusalem. Et puis, dans ce cercle, on avait invité, parce que c'était le désir, invité certains rabbins. On en a eu plusieurs, de tendances différentes. Et ce qui était très curieux, dès qu'il y avait un rabbin qui était là, il était du reste très ému de parler à des chrétiens, c'est que immédiatement, catholiques et protestants, nous étions unis, non pas en opposition, mais nous étions unis dans le regard vis-à-vis du rabbin. C'est forcé, parce qu'il y avait le Christ qui nous unissait, il y avait Jésus qui faisait l'unité. Et on regardait le frère aîné, le rabbin, on l'écoutait. Quand il nous parlait de l'ancienne alliance, et puis on savait très bien qu'il y avait un moment difficile. C'était quand on parlait de Jésus. Et quand on essayait d'entrer dans le mystère même de la nouvelle alliance. Mais c'était très beau de voir que là, on voyait que l'œcuménisme prenait toute sa force. Parce que tout l'œcuménisme ne peut prendre toute sa force que si on va jusqu'au bout, la première division, la division radicale, c'est entre Israël et l'Église en tant que corps mystique du Christ. L'Église en tant que l'épouse de Jésus époux. L'Église en tant que vivant de la nouvelle alliance. Alors, je me demande, voyez, si nous ne devrions pas nous servir de ce lieu pour essayer de comprendre un peu comment Dieu veut l'unité, la réconciliation. Parce qu'on en est tous responsables. On doit tous la vivre. On n'a pas le droit de dire, oh, ça c'est les autres. Non. Moi je suis in medio ecclesiae, donc je n'ai pas besoin de regarder ce qui est à côté de l'Église. Le chrétien est catholique. C'est-à-dire que dans le cœur de Jésus, il est responsable de tous les hommes. Et dans le cœur du Christ, il est responsable non seulement de tous ses frères séparés, mais il doit porter tout ce que représente le mystère de la première alliance. Il ne peut pas dire « moi ça ne me regarde pas, ça ne m'intéresse pas ». C'est impossible, puisque c'est une alliance fondamentale, première. La nouvelle alliance reprend tout, je suis tout à fait d'accord. Elle reprend tout, et elle reprend tout dans le Christ. Mais il y a quelque chose qui me frappe beaucoup. Vous voyez, si j'essaie de comprendre un peu, en filigrane, hein, c'est toujours extrêmement difficile à bien saisir, mais il faut le faire quand même. Hein. Nous lisons la Bible, nous lisons l'Ancien Testament, en comprenant que c'est toujours présent, d'une certaine manière. C'est pas uniquement l'aspect historique. Mais il y a quelque chose qui est toujours présent et qui nous fait comprendre le mystère même de l'Église. L'ancienne alliance fait comprendre la nouvelle alliance. Alors vous voyez bien le Benjamin, Jésus, Judas, Ruben, les 10 frères. Si on essaie de saisir, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, au sens profond, à la manière des pères de l'Église, comme les pères de l'Église regardaient l'Écriture en sachant qu'il y a un bien commun pour nous. Que signifie le fait qu'à la croix, Jésus veut que celle qui est sa mère soit la mère de Jean? Que signifie que Jésus veut qu'il y ait cette unité tout à fait particulière de surabondance? Mais c'est quelquefois la surabondance qui est la plus grande nécessité. C'est Marie qui fait l'unité. Et je crois que c'est bien elle qui doit faire l'unité, qui doit réaliser cette unité. Unité de surabondance, mais qui est la chose la plus nécessaire. Alors, j'essaie de comprendre. Jésus veut nous faire comprendre que nous avons la même mère que lui. Marie est la mère de Jean, elle est la mère de l'Église, elle est notre mère. Nous avons la même mère. Pourquoi y a-t-il ce lien si particulier entre le Benjamin et Jacob? Parce que Jacob, parce que le Benjamin et Joseph sont tous les deux fils de Rachel. Ils ont la même mère. Ils sont liés dans la même mère. Et on sait très bien qu'il y a toute une tradition à travers les pères de l'Église. Cette tradition a été reprise avec Saint Louis-Marie de Montfort en montrant que Marie, c'est la nouvelle Rachel. Elle est la nouvelle Rachel. On est lié, Joseph et le Benjamin, Jésus et l'Église, Jean, le disciple bien-aimé. Donc, le mystère dans ce qu'il a de plus profond, c'est-à-dire Jean, le disciple bien-aimé, le disciple fidèle. On est lié dans le même lien de maternité. De maternité divine, c'est sûr, mais c'est un lien de maternité divine. Et nous comprenons alors comment ce mystère de séparation à l'égard d'une jalousie, toutes les séparations proviennent de jalousie, plus ou moins explicite, mais quand il s'agit d'une jalousie religieuse, fraternelle, religieuse et pontificale. Non, je crois que ça ne peut pas aller plus loin. Et il y a une jalousie farouche entre les grands prêtres et Jésus. Ça, je crois que c'est net. Il ne va pas supporter que le Benjamin passe devant. Il y a quelque chose qui fait que c'est impossible que le Benjamin passe devant. Alors on comprend comment, de fait, on ne veut pas qu'il passe devant. Et c'est là où toute la grande, tout ce qui est dit sur Joseph prend une grandeur extraordinaire quand vous le regardez par rapport à Jésus. Le médiateur, Joseph, le premier médiateur, le sauveur. Et ces phrases qui sont si fortes, Dieu a permis ça pour qu'il donne la vie, pour qu'il soit là, pour redonner la vie. Et non seulement pour le Benjamin, mais pour ses frères, pour ceux qui l'ont mis dans le puits, pour ceux qui l'ont rejeté. Il est sauveur universel, dans le sens le plus fort, avec un certain ordre voulu par la providence de Dieu. Alors, on commence à deviner à découvrir, si vous voulez, à travers ce texte, on découvre comme une espèce de grande annonce prophétique, une prophétie qui, à travers les hommes, n'est-ce pas, n'oubliez jamais ce que les pères de l'Église aiment de dire, Dieu parle non seulement par la parole, mais par les hommes. Et donc il y a une prophétie en acte. C'est pour ça que c'est si fort ces textes. Hein. C'est une grande prophétie en acte. C'est un jeu de sagesse divine où on voit les acteurs avec toute la force et en même temps tout le côté humain qui est là présent et qui nous aide à saisir ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ce grand mystère de réconciliation. L'année sainte était une année de réconciliation. Et quand on mobilise tout le peuple de Dieu pour la réconciliation, ça prend une signification pour nous. Et que cette réconciliation doit aller jusqu'au bout. Et pour que la réconciliation aille jusqu'au bout, il faut comprendre que Dieu veut qu'il y ait comme une unité nouvelle entre les 10 frères de Joseph qui l'avaient mis dans le puits, Joseph, le Benjamin, et tout cela dans la paternité de Jacob. Tout cela dans la paternité de Jacob. Jacob, c'est Israël. Et Jacob représente, hein, le cœur du Père, par excellence, Abraham, Isaac, Jacob. C'est trois pères, mais c'est Jacob qui est le Père par excellence au niveau de l'amour. Il y a comme une montée vers Jacob, puisque c'est lui qui est la source des 12 tribus d'Israël. Et donc c'est bien lui le Père par excellence. C'est la paternité dans ce qu'elle a de plus fort. Et c'est cette paternité qui doit pouvoir s'exercer pleinement. Alors que les brisures avaient une répercussion immédiate sur le cœur du Père et empêchaient le cœur du Père d'être parfaitement épanoui. Puisque c'est souligné, hein, et c'est souligné avec force, que d'une certaine manière, Jacob n'avait plus la vie, alors reprit vie l'esprit de Jacob. Donc l'esprit de Jacob ne vivait plus, ne pouvait plus s'épanouir, ne pouvait plus être parfaitement ce qu'il devait être. Je crois que ça nous aide à saisir le désir profond du cœur du Père de l'unité dans la réconciliation. Le désir du Père de l'unité dans l'amour, au-delà de toutes les divisions. Et même en se servant des divisions qui ont eu lieu pour une unité plus grande. Puisque Dieu permet certaines divisions en vue d'une unité plus grande. Dieu permet des divisions fraternelles en vue d'une unité plus grande. C'est toujours en vue d'une unité plus grande. Autrement, Dieu ne permettrait pas cela. Puisque Dieu est amour. Et que la division s'oppose à l'amour. Et donc c'est toujours en vue d'unité plus grande. Alors voyez comment nous voyons la réalisation de cette réconciliation. Joseph, qui est revêtu de l'Esprit de Dieu, Joseph qui a reçu, nous dirions aujourd'hui, le charisme de discernement, parce qu'il est médiateur, il a reçu ce charisme de discernement. Joseph va sonder le cœur de ses frères pour voir si leur attitude à l'égard du Benjamin est la même qu'à l'égard de lui. C'est pour ça qu'il fallait que le Benjamin soit là, tout proche. Autrement, il n'aurait pas pu sonder le cœur de ses frères. Il l'avait bien sondé une première fois en voyant s'ils étaient voleurs ou pas et si l'amour de l'argent dominait. C'est pour ça qu'il avait remis l'argent, mais par honnêteté, ils l'ont rendu. Donc là, il a bien vu qu'il ne cherchait pas en premier lieu l'argent, mais il fallait aller beaucoup plus loin. Il fallait savoir s'ils étaient capables de donner leur vie pour sauver le Benjamin. Et c'est là où Joseph se révèle. C'est très très fort, cette révélation de Joseph. Cette révélation de Joseph qui se fait au moment précis où justement le cœur de Judas s'est montré comme capable de donner sa vie pour empêcher que le Benjamin ne soit retenu prisonnier et que le père subisse cette dernière souffrance. Alors, à partir de ce moment-là, Joseph se révèle.